Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique. Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table. Ça, c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans l'Happy Hour. Happy Hour.
Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30, vous écoutez 48FM et c'est l'heure de l'Happy Hour. Avec moi pour cette émission, j'ai le plaisir de présenter Eric, Cyril et Ludo. Salut à tous les trois.
Salut.
Bonjour les gens.
Pour cette dernière Happy Hour de l'année, on a voulu prendre le nom de l'émission au pied de la lettre. Alors ouvrez grand votre gosier, préparez-vous la panse car on vous a concocté une petite émission spéciale repas de fête. Au menu donc, quelques idées d'assortiment, de l'apéro jusqu'au dessert. Et puis autant vous le dire tout de suite, on risque même de passer directement de l'un à l'autre. Parce qu'il y a beaucoup à boire dans cette émission et un peu à manger. Puisqu'on vous le répète, on a pris le nom de cette émission au pied de la lettre. Autrement dit, la sobriété ne sera pas le maître mot de cette émission. Et puis, en sautant le plat principal, on évite aussi la polémique viande ou pas viande, on vous laissera choisir. Mais avant de passer à table, un peu de culture avec toi, Cyril. On t'écoute avec ta chronique.
Oui, alors bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, parce qu'une fois n'est pas coutume, je vais vous parler donc d'un livre. Et ce livre, c'est donc sous le format d'une pièce de théâtre, où en passant d'ailleurs, j'ai eu la chance de jouer. Cette pièce, elle s'appelle Les Hortensias. Elle est écrite par Mohamed Rouabi, elle est sortie en 2021, donc c'est vraiment très récent. Et avant toute chose, je sais que lire du théâtre, ça peut en rebuter plus dense, que je peux totalement comprendre. Mais ici, le texte est si imagé et bien écrit que, en fait, les images venaient toutes seules pendant que je le lisais. Cette pièce, alors, elle raconte l'histoire de pensionnaires d'une maison de retraite qui est pas tout à fait comme les autres, car celle-ci accueille principalement des personnes qui étaient dans le monde du spectacle, surtout donc des acteurs et des actrices. La plupart des résidents ont donc une sacrée personnalité bien chargée, chaque personnage a sa couleur bien définie, et quand je dis ça, je parle pas forcément que des pensionnaires. Vous verrez que entre Marie-Thérèse, la directrice qui est complètement à l'ouest, limite mystique, Maria, la femme de ménage qui supporte plus son travail, Roger, le vieux beau qui drague tout ce qui bouge, et son alter ego féminin Lola, une ancienne actrice de cabaret et actuelle nymphomane. Entre parenthèses, c'est ce personnage que j'ai eu la chance d'incarner. Et tous les autres personnages que je n'ai pas cités, croyez-moi, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Cependant, allez pas croire que c'est une pièce qui est exclusivement comique, parce qu'il y a justement beaucoup d'autres couleurs. Quand ces personnages, justement, nous parlent un petit peu de leur passé, de leur vie, on constate quand même qu'il y a une grosse déshumanisation, une infantilisation dans la maison de retraite. Ça a très souvent un goût très doux, amer. Heureusement, pas comme les chocolats qu'on a là. Ça n'a rien à voir, heureusement. Mais c'est là, en l'occurrence, ouais, c'est très doux, amer de nostalgie. Notamment la scène finale, j'y pense, qui a un monologue qui, la première fois que je l'ai lu, m'a juste mis les larmes aux yeux. J'étais pas très bien, mais il est magnifique. Et si vous avez, même si vous n'avez pas l'occasion d'en voir une représentation, c'est une pièce que je peux que vous conseiller de lire. C'est actuel, c'est frais. On passe du rire aux larmes. Et malgré tout, ça va, ça se lit relativement vite. Juste la scène d'exposition au début peut paraître un petit peu longue, mais elle est nécessaire parce qu'elle met vraiment en avant les personnalités de chacun des personnages, elle est très explicite. Donc si ça vous tente de lire, je peux que vous conseiller de vous approcher un tout petit peu. Voilà, si vous ressentez des difficultés au début, ça vaut vraiment le coup, vous découvrirez une pièce vraiment incroyable. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas que si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira sûrement mieux demain.
Merci Cyril. Est-ce que tu peux nous redire peut-être le nom de l'auteur si on veut acheter le livre ?
Alors, c'est Mohamed Rouabi. Je ne suis pas sûr de comment ça se prononce, donc je le prononce vraiment, voilà. Et le titre, c'est Les Hortensias.
Eh ben super, c'est noté. Merci beaucoup encore à toi.
Pas de soucis.
Bon, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il fait soif, là, cette heure-ci, tous les trois ?
Un petit peu.
Toujours.
Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, pardon, qu'est-ce qu'on peut vous servir? Avec nous à table, on a un peu de bière de la brasserie de Rocle. C'est de la bière 100% Lozère, elle nous vient de Langogne. Alors, il vous suffit de prendre à Langogne l'avenue principale, Maréchal Foch, et juste avant ou juste après, ça dépend d'où vous venez, juste après l'hôtel Le Beau Séjour qui fait l'angle, il suffit de prendre la rue Pierre Grasset, et ensuite, vous vous engagez sur la rue du Boulodrome. Alors, le destin a bien fait les choses, car c'est là qu'ils brassent leur bière, un local mis à disposition par la coopérative Lac 48. On écoute.
Adrien.
Et Martin.
Donc, où se trouve-vous exactement, là?
Bah, la brasserie de Rocle à Langogne.
Donc, du coup, vous existez depuis combien de temps ici?
Bah, à Langogne, on est arrivé au printemps. Et Martin, c'est son activité à lui, et c'est lui le brasseur depuis longtemps, brasse depuis très longtemps maintenant. Il s'était professionnalisé 2 ans avant qu'on déménage à peu près.
Ouais, ça va bientôt faire 3 ans, quand même, professionnellement. Activité, ouais, on est en brasserie artisanale.
Sur Langogne?
Sur Langogne, ça va faire 6 mois. Mais la brasserie des Rocles existe depuis, on va dire, 3 ans bientôt.
Et vous êtes que deux ou il y a d'autres membres avec vous?
Pour l'instant, on n'a que deux. Mais dans le futur, on se développe. Moi, on va avoir besoin d'embaucher et trouver quelqu'un qui peut nous aider.
Du coup, là, sur une année, si vous avez une idée, combien ça représente de production de bouteilles de bière?
En nombre de bouteilles, ouais.
Bon, c'est...
ouais, en général, on parle en hectolitres sur une brasserie. Et donc là, c'est notre première année avec des capacités de brassage suffisamment importantes pour envisager d'en faire un peu plus. Mais ouais, cette année, on va faire quoi? On va faire à peine disait. Ça fait quoi? Ça fait.
Ouais, 200 litres.
Ça va faire 20 000 litres, à peu près, pour la première année.
Ok. Du coup, combien de différentes sortes de bières vous produisez?
Donc là, aujourd'hui, on a 6 bières différentes. Donc la 6e, on l'a fait une fois dans l'année, c'est la bière de Noël. Et sinon, à l'année, on a 5 différentes bières.
Okay. Et justement, comme nous, on va faire une émission là sur les repas de fête de fin d'année, ça tombe bien que vous ayez une bière de Noël. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette bière?
Donc à la base, c'est une bière ombrée avec du miel des Cévennes, de la cannelle et du gingembre. Donc voilà, c'est gourmand.
Ok. Et les prix, à peu près, c'est autour de combien?
Donc la bouteille à l'unité, c'est à peu près entre 5 et 6 euros. Voilà.
Et est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être le nom de brasserie de Rocle? Rocle, je crois que c'est un lieu en Lozère, c'est ça?
Oui, c'est un petit village à côté de Langogne, derrière le lac de Nossec. Et donc voilà, ça s'appelle Rocle. Et donc c'est là où on a créé la brasserie. Voilà.
Ok, ça marche. Et vous êtes tous les deux des Lozériens?
Pas de naissance, mais... Ça fait une quinzaine d'années qu'on... Enfin, moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis là. Martin, bah, ça fait une quinzaine d'années que tu es en Lozère aussi.
Moi, ça fait... Moi, je suis polonais. Et ça fait, oui, bientôt 20 ans que j'habite en France. Et en Lozère, ça va faire 7-8 ans.
Et vous avez toujours été brasseur ou vous êtes reconverti sur le tard? Quel est votre parcours à chacun?
Tu commences?
Bah, moi, je suis paysan. Et pareil, c'est une entre guillemets reconversion professionnelle qui date d'il y a une quinzaine d'années quand je suis arrivé ici. Je bossais à Nîmes, Montpellier avant, et donc c'est plus dans une forme de diversification professionnelle que j'ai rejoint Martin dans l'aventure il y a un peu plus d'un an. Mais voilà, je suis toujours paysan et j'ai pas vocation à arrêter mes activités agricoles.
Et moi, à la base, je suis cuisinier pâtissier. Et donc à un moment donné, j'ai eu 2 enfants. Du coup, pour la vie familiale, c'était un peu compliqué. Travailler en restauration, puis la famille. Du coup, j'ai décidé de quand je brassais depuis 10 ans dans mon garage, dans mon jardin, j'ai décidé à essayer. Et j'ai créé la brasserie des Rocles. Voilà.
Et du coup, où est-ce que vous vous fournissez? Déjà, quelle est la matière première pour créer de la bière? Et où est-ce que vous fournissez?
Bah, pour faire de la bière, il y a quatre éléments. Donc l'eau, ça, il y en a partout, mais elle conditionne beaucoup la qualité du produit derrière. Les levures qui vont faire le travail de fabrication d'alcool et puis qui ont une influence aromatique quand même assez importante. Et bien sûr le malt qui est la céréale dont on va extraire le sucre pour fabriquer l'alcool. Et le houblon qui va permettre de conserver la bière et qui va avoir un rôle un peu d'épice en fait pour aromatiser et travailler avec la levure pour le profil aromatique qu'on va désirer derrière.
Donc l'eau, ça vient de Langogne, c'est une source qui s'appelle Crémade. Ensuite, le malt, c'est du malt français, bio. On se fournit chez Soufflé. Et l'eau blanc, ça dépend de variétés. Donc nous, on fait des styles de bière qui viennent d'un endroit dans le monde. Du coup, on cherche des variétés d'eau blanc qui sont appropriés à ce style. Donc ça peut venir soit d'Allemagne, soit d'Angleterre, ou des États-Unis, ou encore d'autres de notre pays. Et la levure, ça, chaque levure, elle a été sélectionnée quelque part. C'est pareil, les levures sont omniprésentes, donc ça vient d'un endroit. Mais quelque part, elles étaient sélectionnées, et nous, on achète une souche spécifique pour chaque style de bière. Okay. Voilà.
Et du coup, là, dans la Lozère, vous vendez de partout. Quels sont vos points de vente?
Ben, on travaille beaucoup en direct avec des petits magasins, des restaurants, des bars, surtout sur de la bière bouteille. Et on a du fût depuis 2 mois. Et on a à cœur de développer la clientèle de bière pression parce que on essaie de faire vraiment une bonne bière et d'être reconnu dans le milieu de la bière. Donc, on est obligé de passer par la bière pression. Surtout que comme on est Nature et Progrès et qu'on a une exigence qualitative importante, on veut arriver à maîtriser la refermentation au fût. Et donc, avoir une bière qui est ni filtrée, ni pasteurisée, ni gazéifiée artificiellement. Donc ça demande quand même un savoir-faire assez important. Et c'est par le fait de maîtriser ce savoir-faire-là sur du fût et sur de la bière pression qu'on a l'intention de se faire connaître et reconnaître. Donc on développe le fût là depuis pas très longtemps, et donc sur de l'événement, sur des bars, et de plus en plus, j'espère.
Ok, et dernière petite question, comment on sait si une bière est bonne? Parce que j'imagine que vous avez dû tester plusieurs fois avant de vous mettre à les vendre. Comment vous l'évaluez, ça?
Tu veux parler?
Bah, la première des choses déjà, c'est qu'elle plaise et qu'on la trouve bonne au niveau du goût et au niveau du plaisir surtout de continuer à en boire. C'est vrai que souvent une bière peut être bonne sur les 2-3 premières gorgées, mais au bout d'un ou deux verres, elle peut vite être écœurante, donc c'est un piège aussi à éviter. Après, chaque bière peut être très différente. Chaque personne peut chercher des choses très différentes. Après, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un équilibre au niveau du profil aromatique, d'arriver en fait à exprimer ce qu'on veut exprimer dans la recette. C'est vrai que ça, c'est un truc qui est assez important pour nous, c'est de travailler des recettes historiques, et donc des recettes qui existent déjà, qui sont cataloguées et dont on essaie de sublimer la base qui est déjà existante. Un peu comme un plat en cuisine. Martin, venant de la cuisine, c'est une image que j'utilise souvent, c'est que voilà. Un plat, quel qu'il soit, peut être exprimé de manière très différente en fonction du chef et en fonction de... Ça reste toujours ce plat-là. Et c'est un peu la même chose en bière. Et bon, sauf si effectivement on a une recette qui n'existe pas, qui fonctionne bien et voilà, qu'on décline. Mais nous, voilà, c'est pas notre dada, quoi. Nous, on a vraiment envie de travailler des styles existants et de les sublimer et de les mettre à notre pâte et à notre sauce, quoi. Enfin, surtout à celle de Martin.
Pour moi, la meilleure bière, c'est celle qu'on aime le plus, ou on apprécie le plus, personnellement. Voilà.
Est-ce que justement vous pourriez nous dire, déjà citer les différentes noms de bières là, que vous produisez, et dire laquelle vous préférez chacun, peut-être?
On en a 5. Là, on voit que 4, mais on a 5 bières à la gamme. Donc on a 2 blondes différentes, une dans style anglais, une américaine, une brune qui vient d'Angleterre aussi, et une bière blanche bavaroise. Donc chaque de ces styles vient d'un endroit.
Et vous pouvez dire les noms et les décrire chacune?
Ah oui, donc blonde anglaise, c'est son nom. Et donc c'est une bière blonde plutôt classique, avec des ingrédients qui viennent d'Angleterre. Donc elle est plutôt claire en couleur. Elle a une petite mousse à fine bulle. et amertume qui est vraiment typique et aroma doublance qui sont typiques aux bières anglaises. Okay. Ensuite, Pacific, c'est une autre bière blonde américaine pour ce. Et donc là, on a utilisé vraiment houblon. C'est houblon qui a joué premier rôle, et on a utilisé houblon qui sont aujourd'hui un peu à la mode, qui donnent des saveurs agrumes, pamplemousse, un peu fruits tropicaux. Donc c'est celle qu'on on vend le plus. Mmh. Donc c'est vraiment quelque chose. Toutes nos bières sont autour de 5 degrés d'alcool, 5%. Donc voilà. Après la porter, donc bière brune, c'est notre style. Historique qui vient d'Angleterre, et celle-ci elle est toastée, torréfiée, de notre chocolaté, voilà, un peu cerise en chocolat, voilà, c'est assez sympa. Et la dernière, en bière blanche, c'est ancien style de sud d'Allemagne, des Bavières, et dans celle-là c'est la levure qui a joué premier rôle. On n'a pas du tout d'amertume, et levure qui donne des saveurs banane, clou de girofle, voilà, c'est assez sympa.
Et votre bière de Noël, puisque vous la faites que pour Noël, avec quoi elle peut se déguster comme plat ?
En apéro, devant la cheminée, et peut-être avec les desserts chocolatés, voilà, ou la viande braisée.
Après, la bière de Noël est très intéressante parce qu'on a le miel qu'on a utilisé vient des Cévennes et qu'il y a moitié châtaigne dedans. Et on craignait un peu au début, mais on a pris un risque qui s'avérait très payant parce que le goût un peu fort du miel de châtaigne, ça a vraiment travaillé sur l'amertume de manière très intéressante. Et donc, on a vraiment une bière qui est un peu sucrée et qui est douce, donc qui est facile à boire pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de trop boire la bière ou qui apprécie pas la bière en particulier. Donc, c'est une bière accessible. Et en même temps, pour un connaisseur, elle est intéressante parce que justement, il y a ce travail intéressant d'amertume qui est fait par le miel de châtaigne. Et donc oui, c'est vraiment une bière qui est assez transversale et qui peut plaire à beaucoup de publics différents. Effectivement, plutôt à conseiller ou en apéro, parce qu'elle a quand même une première bouche un peu conséquente, ou en dessert, parce qu'elle est un peu sucrée et que c'est une bière qui va plutôt passer mieux passer avec de la nourriture sucrée, quoi.
Ok. Alors, première étape, où sommes-nous ?
Alors, donc là, on est dans la salle de brassage. Donc c'est l'endroit où on fabrique la bière. Donc chez nous, on a dans la salle de brassage, on a les fermenteurs et la cuve d'eau chaude et la cuve de sucrage. Potentiellement, c'est des éléments qui sont pas vraiment utilisés quand on brasse, enfin par les fermenteurs dans lesquels on met la bière pour la faire vieillir. Mais voilà, nous on a une petite brasserie encore, donc voilà, on a une salle de travail et une salle de stockage, grosso modo, pour simplifier. Donc là, il y a un peu tout dans la salle à brasser. Donc le processus de fabrication de la bière commence avec le réservoir d'eau. C'est là qu'on chauffe l'eau. Et donc cette grande cuve-là, c'est là où on met l'eau à chauffer, en général la veille, quand on prévoit de brasser le lendemain, de manière à ce que quand on arrive, on ait l'eau à la température nécessaire pour ce qu'on appelle l'empattage. L'empattage étant la phase de fabrication de la bière où on va extraire le sucre du malt. Okay. Et donc dans cette seconde cuve-là, donc après, c'est ça aussi que j'ai découvert quand j'ai découvert le milieu de la bière, c'est qu'il y a plein de manières différentes de faire de la bière. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs cuves ou la même cuve pour plusieurs étapes, faire transférer la bière, pas la faire transférer. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Et donc, le matériel qu'on va utiliser conditionne les possibilités qu'on a dans le processus d'élaboration de la bière. Donc, nous, en ce qui nous concerne, on a la même cuve pour l'ébullition et pour l'empattage. Mmh. C'est-à-dire que cette première phase-là, l'empattage, va se faire dans cette cuve-là, sous laquelle il y a un brûleur qui nous permet justement par la suite de faire l'ébullition, mais qui là, en l'occurrence, ne va pas être utilisé. Puisqu'on utilise le réservoir d'eau chaude pour faire chauffer l'eau. Donc c'est 66 degrés l'empattage à peu près, enfin, ça dépend des recettes, 65, entre 65 et 68. Après voilà, on peut faire plusieurs paliers aussi, à savoir 65, 66 pendant un certain temps, et puis grosso modo ça dure une petite heure. Enfin, une heure, quoi. Pendant laquelle on laisse le malt, l'eau soutirer le plus de sucre possible au malt. Ensuite, une fois que cette phase-là est finie, on transfère dans le filtre. Donc, c'est cette cuve-là, dans laquelle la future bière avec tout le céréale va être stockée ici.
Et en fait, mélange.
Et non seulement le mélangeur, c'est juste pour homogénéiser, parce qu'en fait, tout le céréales, donc grosso modo, on a à peu près 500 kg de malt dans un brassin, puisqu'on brasse à peu près 2000 litres de bière à chaque fois. Et donc, ça reprend à peu près cette place-là. Il monte jusque-là, le malt. Et donc, tout ça, c'est que de la céréale. La bière, elle est à l'intérieur, et puis bien sûr, elle dépasse au-dessus. Et elle va descendre par ce gros paquet de céréales qui va la filtrer. Et ensuite, on va la faire, c'est avec la pompe qu'il y a dessous, on aspire par là, on la fait remonter par là-haut, et on la fait retourner, et on la fait tourner comme ça. C'est la phase de filtre. Et donc, au début, elle est un petit peu trouble, et puis petit à petit, elle va se clarifier jusqu'à ce qu'elle ait un niveau de clarification qu'on estime être pertinent, et qui nous permet ensuite de la remettre dans la cuve dans laquelle elle était à l'origine, la cuve d'empâtage, mais là, cette fois-ci, sans la céréale, uniquement l'eau gorgée du sucre du malt. Et c'est là qu'on va procéder à l'ébullition grâce au brûleur qu'il y a dessous. Donc là, c'est un chauffage au gaz, de fait, qui est utilisé pour l'ébullition. Et il faut pendant une heure garder l'ébullition. Pour plusieurs raisons, quand on fabrique la bière, la première des choses, c'est bien de tuer un peu toute la microbiologie qu'on veut pas qu'elle se développe derrière pour éviter les contaminations, donc ça stérilise notre bière. Ça va permettre d'avoir, comme quand on fait du thé, de l'eau chaude pour infuser le houblon, parce que le houblon, pour s'exprimer aromatiquement parlant, a besoin d'être infusé comme du thé. Et ensuite, la troisième vertu de l'ébullition, c'est de coaguler toutes les protéines qui sont présentes dans les céréales et qui vont nous permettre ensuite, grâce à l'étape suivante, de les concentrer dans ce qu'on appelle le cône du Whirlpool. C'est-à-dire qu'une fois que l'ébullition est faite et que toutes les protéines sont bien coagulées, on va mettre ça dans la cuve, donc Whirlpool, et on va la faire rentrer dans la cuve de manière latérale. Ce qui fait qu'on va créer un vortex à l'intérieur de la cuve qui va créer un cône avec toutes les impuretés, toutes les protéines coagulées, tout ce qu'on veut pas qui se retrouve dans la bouteille, et ça va permettre de les agglutiner au milieu. Et dans cette cuve là une fois qu'on va passer en plus dans le fermenteur, on a ce qu'on appelle les tirages au clair, c'est à dire que la bière elle est pas tirée par le dessous, elle est tirée à peu près à cette hauteur là on en a deux différents, on peut choisir la hauteur, et donc ça nous permet, le cône qui est au milieu avec le tube qui sort au dessus, de pas prendre le cône en fait d'impureté. Et ensuite, voilà, une fois que... Donc on laisse tourner entre 20 et 30 minutes, quoi, pour que le cône, que toute l'énergie cinétique soit finie. Et ensuite, cette bière, cette future bière, elle passe par un gros radiateur qui permet de refroidir la bière. Et donc elle va rentrer ici.
Un radiateur qui refroidit.
Voilà. Ah oui. C'est un échangeur, on appelle ça un échangeur à plaques. C'est le même principe que le radiateur, sauf qu'effectivement, là, en l'occurrence, c'est pour refroidir. Et donc d'un côté, il y a de l'eau du réseau qui va passer. Pour refroidir. De l'autre côté, il va y avoir de la bière. Donc la bière va rentrer par là et va sortir par là, et l'eau va rentrer par là et va sortir par là. Et ça permet, la bière qui est... donc ici, on est à 1000 mètres d'altitude, donc la température d'ébullition, c'est autour de 99 degrés. Donc même si elle refroidit un petit peu, elle est entre 90 et 95 degrés quand on la met en fermenteur.
Mais il y a un calcul un peu scientifique, un peu, finalement, quelque part.
C'est que du scientifique de partout. Au niveau des... On est tout le temps en train de prendre les mesures. Il faut prendre la densité, prendre le pH, le taux de sucre en haut, en bas, à côté, après l'ébullition, pendant l'ébullition. Enfin voilà, c'est plein de paramètres. Ça, c'est Martin le spécialiste qui passe sa journée à faire des mesures de partout. Et puis on compare toutes les mesures, et puis on se dit là, on fait quoi? Là, on est un petit peu au-dessus, là, on est un petit peu en dessous, on rajoute un peu d'eau, on rajoute pas d'eau, on filtre un peu plus longtemps, un peu moins longtemps. Enfin, voilà, tout l'enjeu est là, en fait, c'est d'arriver à viser tous les paramètres qu'on souhaite avoir pour réaliser la recette qu'on veut avoir. Et donc, la difficulté, c'est pendant tout le processus de s'adapter à chaque fois, parce que tout se passe jamais exactement pareil. Le malt, c'est jamais exactement le même. La température extérieure, c'est jamais exactement la même. Enfin voilà, tout est toujours plus ou moins différent, même si on essaie de standardiser au maximum pour arriver justement à reproduire les mêmes recettes tout le temps. C'est ça aussi le défi dans la brasserie artisanale, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que chaque brassin d'une même recette de bière ait le même goût, parce que nos consommateurs, quand ils boivent une Pacifique, ils veulent qu'elle ait le goût de la Pacifique et pas le goût d'une autre. Et c'est un petit défi à chaque fois, parce que voilà, on n'est pas sur une bière pasteurisée, et que notre bière, dans la bouteille comme dans le fût, elle va continuer à vivre et à fermenter très longtemps. Souvent, on a tendance à penser que la bière, c'est un produit sec qu'on conserve au frais, qu'on conserve à température ambiante et qui peut avoir une DLC très longue. En fait, la bière artisanale refermentée en bouteille ou en fût, c'est une bière vivante. Et les levures sont toujours actives à l'intérieur. Enfin, elles ont fini leur travail. C'est les dépôts qu'on a au fond de la bouteille. Mais voilà, le produit est vivant et potentiellement, potentiellement, c'est même pas potentiellement, c'est qu'il évolue tout au long de sa durée de vie. Donc, c'est difficile de garantir plus de 6 mois au niveau du profil aromatique de la bière, et il faudrait la garder au frais. Si on voulait vraiment, oui, une bière, c'est pas censé être un produit sec, c'est vraiment un produit
mais
vivant.
Qu'on l'ouvre, quoi.
Bah ouais, il faudra la conserver au frais pendant toute sa durée de vie. Elle se conserverait plus longtemps et dans de bien meilleures conditions. Donc c'est un peu la difficulté, c'est que bah comme c'est pas le cas dans la manière dont c'est travaillé dans toute la distribution, bah il faut que nous on arrive à faire un produit qui soit vraiment archi nickel pour que même à température ambiante il tienne, principalement l'été où il fait chaud, où c'est là où c'est le plus difficile et où bah c'est là où on a le plus de demandes, donc où il faut que ça tienne, quoi. Donc ouais, c'est. Et donc voilà, pour finir le processus, à la sortie de l'échangeur à plaque, une fois qu'elle est descendue autour de 20 degrés, elle va dans le fermenteur où elle est ensemencée en levure, et où les levures, pareil, la température dépend des levures qu'on va utiliser, des recettes, etc. Mais bon, voilà, c'est plus ou moins autour de 20, enfin, c'est ce qu'on appelle les fermentations hautes, 18-20 degrés. Il y a des bières, notamment les lagers, par exemple, qui sont des fermentations un peu, qu'on appelle les fermentations basses, parce que c'est des levures qui travaillent plutôt à 10-12 degrés, c'est ça. Enfin, on n'en fait pas des lagers, donc je connais moins le truc. Mais bon, avec après tous les, voilà, tout le, toutes les étapes de monter un peu la température avant l'embouteillage, avant le sucrage, ou de descendre en température, pour éviter voilà tous les diacétyles ou plein de trucs qu'on veut pas dans la bière ou qui donnent mauvais goût. Enfin, voilà, il y a toute une, enfin c'est vraiment hyper riche en microbiote, rien que sur le microbiote déjà en bière on peut faire des trucs de dingue, sans compter tous les autres paramètres. C'est, enfin voilà, c'est vraiment hyper riche, quoi, comme. Et donc elle va rester dans le fermenteur 15 jours 3 semaines, le temps que l'alcool se crée et que tous les profils aromatiques se stabilisent. Et ensuite on branche le fermenteur sur la dernière cuve de la salle, donc c'est la cuve de sucrage, c'est la cuve dans laquelle on va rajouter un petit peu de sucre pour que toutes les levures qui ont fini leur travail, mais qui sont encore présentes dans la bière, se réactivent, se réveillent, se remettent à travailler pour fabriquer du CO2 pour que votre bière elle pétille dans la bouteille ou dans le fût, parce que à ce moment-là, que ce soit la pression du fût ou la pression de la bouteille, quand c'est une bière qui est refermentée en bouteille ou en fût, c'est le travail des levures qui va fabriquer le CO2 et qui va créer cette pression-là. C'est pas du CO2 industriel qu'on rajoute dans la bière artificiellement, comme c'est le cas pour 99% de la bière qu'on boit.
Ah oui,
voilà, même les brasseries artisanales, dès qu'elles ont les moyens économiques et techniques de passer à la gazification artificielle, elles le font parce que
c'est moins long, en fait.
Non, c'est vraiment que ça permet de vraiment mieux maîtriser le processus et le produit sur la stabilité. Et c'est souvent la guerre, comme je vous le disais, à la stabilité du produit, et parce que ouais, avoir une refermentation au fût en bouteille, ça sous-entend de maîtriser suffisamment la fermentation pour que ça tienne suffisamment longtemps pour que le profil aromatique n'évolue pas ou très peu sur cette période-là. Donc c'est en ce sens où c'est vraiment un défi qu'on a à cœur de relever avec Martin. Et c'est pour ça que j'en parle souvent, parce que voilà, c'est important de mettre ça en avant dans le savoir-faire qu'on veut développer, quoi. Et donc la cuve de sucrage, ça nous permet de pouvoir mesurer combien on a de bière et de savoir quoi, et de remettre le sucre dedans, et avant de pouvoir la passer donc dans cette machine-là pour l'embouteillage, ou directement dans les fûts avec un tuyau alimentaire, quoi, pour remplir les fûts, quoi.
Donc oui, là on voit les petites bouteilles en bas qui sont prêtes à recevoir.
C'est ça. Là en fait elle est au repos, donc au repos elle est pleine de paracétiques pour justement éviter la contamination. Et donc ouais, c'est la machine qu'on utilise pour remplir nos bouteilles de bière.
Très bien. Étape suivante, la mise en carton, c'est ça?
C'est ça. Étape suivante, c'est l'embouteillage. Donc là c'est une seconde journée. En général, on a une grosse journée pour brasser, pour fabriquer la bière et la mettre en fermenteur. Et puis une fois qu'elle est prête, on a une. Là, en l'occurrence, si on veut faire nos un peu plus de 20 hectos tout en bouteille, c'est une sacrée grosse journée. Mais on est assez fiers d'être arrivés avec nos petites machines et nos peu d'investissements à arriver à le faire, parce que c'est pas évident de bien tout optimiser. Mais voilà, avec donc cette machine de soutirage qui nous permet par gravité de remplir les bouteilles, on la met par ici, comme ça on a les bouteilles vides là qu'on peut prendre directement.
Ouais.
Et ici on a cette machine là, donc c'est une petite capsuleuse, donc on a les deux manettes qui nous permettent de mettre la capsule, mais bon c'est une par une à la main, voilà. Et on pose la bouteille une fois qu'elle est capsulée sur le tapis roulant là de l'étiquetage.
Faire un peu de bruit si possible. Ouais.
Ah, ouais.
Capsuleuse, alors.
Qu'on attend ça, qu'on entend toute la journée quand on est en embouteillage. Et le plus vite possible, parce que c'est la cadence qui va savoir si on va rentrer à 20h ou à 2h du matin. Et donc là, ici, sur le tapis roulant, donc c'est cette machine-là. Donc ça, c'est le seul investissement un peu plus important qu'on a fait. Donc c'est une étiqueteuse qui nous permet de poser la bouteille sur le tapis roulant et d'arriver sur une table de masse la bouteille étiquetée. Et ben, il y a quand même besoin d'un opérateur pour la mettre en carton et puis la ranger dans cet espace-là de stock. Donc le stock final, il est à l'extérieur de la petite pièce. Mais une fois qu'on vient d'embouteiller, bien entendu, comme il faut refermenter en bouteille ou en fût, il faut laisser les bouteilles et les fûts à une température régulée autour de 20 degrés pour que les levures puissent travailler, avoir de bonnes conditions de travail pour regazéifier la bouteille et le fût. Donc c'est ce qu'on appelle une chambre chaude. C'est, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un ancien primeur ici.
Ah non.
Et donc c'était une chambre froide qu'on a transformée en chambre chaude. C'est bien parce que c'est bien, c'est ça. Et donc voilà la chambre chaude, donc il y a la chambre de refermentation où on arrive en poussant un peu les murs à stocker deux brassins. Quoi.
Deux quoi ?
Deux brassins.
Deux brassins. Donc ce qui veut dire deux brassins, c'est quoi ?
Deux brassins, c'est deux fois le volume de fabrication qu'on peut avoir dans une journée de brassage. Okay. Et donc deux brassins, nous, c'est deux fois 2000 litres. Donc c'est. Enfin voilà, c'est plus ou moins. Quand on se débrouille bien, pour l'instant, le record, il est à 2277 litres, je crois.
D'accord.
Sur un brassin.
Ok. Et donc là, on voit les fameux cartons de bière de Noël. Alors.
Voilà, tout à fait.
Ok, et vous les vendez jusqu'à quand ces bières là ?
Jusqu'à Noël l'année prochaine. L'année prochaine, ce sera la nouvelle recette.
D'accord, mais toute l'année elles sont disponibles.
Ouais, en général il y en reste toujours un peu.
Plus. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus.
C'est ça, on en refera pas avant Noël l'année prochaine. Okay. Mais on fait en sorte qu'il reste toujours quelques cartons de manière. On a des clients qui aiment bien la bière de Noël et puis c'est intéressant, comme tous les ans elle change et qu'elle a des goûts un peu différents. Mmh. Voilà, c'est toujours intéressant d'en avoir un petit peu. Voilà. Okay. Voilà. Cette année on a été complètement en rupture, je crois, au mois de septembre. En octobre, mais ouais, il y en a eu un petit peu, notamment au petit marché à Langogne, le magasin de producteurs. Ouais. Il en est resté sur le linéaire jusqu'en septembre. Quoi. Bah, après, il n'y en avait plus. Quoi. Ouais,
c'est ça. Alors, on ne tarde pas à aller en acheter ces bières de Noël avant rupture de stock. Donc, Ludo, toi, tu en as goûté plusieurs, je crois. Quelles sont les bières que tu as devant toi là ?
Alors, j'en ai goûté plusieurs, pas pendant cette émission, bien entendu. Y a les deux de base qui vont de toujours, c'est la Pacific Ale, c'est une bière blanche assez fruitée qui est excellente, la bière anglaise qui est très bonne. Et donc là, je viens de goûter la Saison Mystic Ale, une bière de ferme belge que je ne connaissais pas, qui est blonde aussi, qui est très bonne. Moi, j'aime pas les bières fortes. Alors, c'est des bières qui sont, comme on l'a entendu durant le reportage, qui sont à 5 degrés, donc c'est maximum. Quelque chose que j'aime beaucoup. Toi, tu as goûté la bière de Noël ?
Bière de Noël, ouais, alors un goût un peu sucré, donc moi je suis pas forcément fan de mélange sucré-bière, mais je voulais quand même la tester, donc je testerai les autres plus tard.
Voilà, une bière avec du miel pour ta gorge, pour l'émission.
Exactement.
C'est ça. Eric, tu les connais aussi, toi ? Tu les achètes sur. Tu nous disais en off.
Sur le marché, ouais.
Sur le marché.
Marché à Mandré. Il y a un producteur. Un primeur de fruits et légumes qui vient et qui en a quelques-unes des fois, ouais.
Oui, alors justement, on peut parler des bières lozériennes parce qu'il y en a beaucoup et elles sont toutes vraiment excellentes. Il y a la bière de la Naine à Saint-Chély-d'Apcher, on a fait des reportages dessus qui est très bonne. Il y a la Bestia, il y a la bière de l'Aubrac, la Tarnonaise, la 48 et on va essayer de ne pas en oublier.
Je ne pourrais pas trop vous aider en plus.
Et la bière de la Jonte.
La bière de la
voilà, il y a une bière des Cévennes aussi que je n'ai pas goûtée, qu'on goûtera et bientôt.
Donc, Brasserie de Rocle, vous pouvez retrouver Adrien et Martin dans leur local qui ils ouvrent en fait tous les jeudis pour vendre sur place. Donc, c'est de 16h jusqu'à 19h ou sinon vous pouvez les appeler en amont. Et leur adresse mail, c'est contact@brasseriederocle.com. Bon, est-ce qu'on passerait pas un peu à table maintenant après la bière ?
On a faim, on
après
a faim, on
la
veut
bière,
manger.
Vous savez pas quoi ? Le vin, je vous propose de voir un peu de vin. Et pour ça, on allait voir un expert en la matière croisé par hasard au milieu des livres à la médiathèque Lamartine. On écoute.
Voilà, moi je suis Guy Salaï, je suis le président de l'association Les Sarmentelles, une association qui fait la promotion des vins de la région d'Occitanie. Ceci dit, j'ai une formation sur les vins de Bourgogne. Voilà. Je ne boude pas les vins des autres secteurs, mais j'avoue avoir des préférences pour certaines zones. Effectivement, la Bourgogne, vallée du Rhône, Languedoc, l'Occitanie, les vins Cahors me vont très bien également. Et puis, j'adore les vins de Loire. Voilà.
Et donc, pour les repas de fête, qu'est-ce que vous nous proposez ?
Alors, voilà, il faut faire attention un petit peu, quand on fait un repas assez long, de ne pas ajouter trop de vin. Il va falloir essayer d'être assez fin pour associer des vins à l'apéritif, par exemple, avec l'entrée, de telle manière qu'on va se retrouver avec deux vins, plus éventuellement un effervescent. Mais il ne faut jamais dépasser cette règle-là, parce que c'est gaspillé. Après, les convives ne sont pas forcément à l'aise. Donc, c'est effectivement, on a une volaille, par exemple, un chapon à la crème, des choses comme ça, ou truffé, ou etc., on va peut-être s'orienter, comme c'est très crémeux, sur des blancs pour servir ces volailles-là. Alors, des blancs qui seront un peu soyeux, voire même, si on a des moyens, avec un chapon, des suprêmes de chapon à la crème, on peut très bien associer des vins jaunes. Hein, du Jura qui seront délicieux. Mais à côté de ceci, si on a là aussi par exemple une volaille mais grillée avec des fruits secs, etc., on va chercher quelque chose de généreux en saveur. Alors on peut très bien partir par exemple avec des collioures ou des côtes de Roussillon qui seront très onctueux, très larges en palais et qui vont s'associer de façon merveilleuse. Et ces mêmes vins rouges, on pourra créer la surprise de les associer en fin de repas par exemple avec des desserts à base de chocolat, de pâte d'amande. Ces saveurs-là, ça se mariera très très bien. Voilà. Ce que je conseille également, c'est si on fait un apéritif avec, par exemple, du foie gras, puisque c'est assez souvent qu'on le retrouve sur la table, mais moi je vous conseille vivement d'attaquer là aussi avec un Coteau du Layon. C'est un vin blanc de la vallée de Loire et qui va très bien faire l'apéritif homme-femme, puisque là on peut très bien l'associer à toutes les palais, et on va le retrouver de suite pour l'entrée avec justement ces foie gras. Ou alors si bon vous trouvez que c'est trop cher, mais un Coteau du Layon c'est quand même pas très cher, c'est 7-8 euros le flacon, vous pouvez très bien partir sur de la clairette d'Adissan. Clairette d'Adissan c'est 3 euros 3,50 euros, et ça fait des merveilles quand on les sort. Les gens connaissent pas forcément. Ce sont des vins de proximité, des blancs qui sont relativement onctueux, voilà. Par contre, effectivement, si on a des personnes qui ont l'habitude de fréquenter des bonnes tables, et si on part sur de la biche, des feuilletés au cerf, des choses comme ça, alors là, moi, je vous invite directement à aller sur des Gevrey-Chambertin. Oui, on ne sera pas sur les mêmes gammes de prix, on sera à 20 euros la bouteille, mais c'est qu'une fois par an. Voilà. Et après, n'oubliez pas, pour les fromages, là aussi, les fromages, lorsqu'ils sont gras, on va sur un vin onctueux. Donc ben ça sera là aussi, par exemple, les clairets d'Adissan que je vous disais, ou les Coteaux du Layon, ça se marie très très bien, y compris les roqueforts. Maintenant, si vous préférez servir des rouges, libre à vous, mais ne prenez pas des rouges trop tanniques, parce que ça détruit les saveurs de nos bons fromages. Et avec les chèvres, alors je vous conseille bien sûr des vins blancs, des sauvignons, c'est un mariage idéal.
Merci à Guy Salaï de l'association des Sarmentelles et accessoirement directeur de la médiathèque Lamartine, qui nous permet de faire la transition avec le fromage. Mais avant ça, je crois qu'on a un de nos chroniqueurs qui a un peu trop abusé d'alcool. Eric, on t'écoute.
Oui, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut savoir que je suis quelqu'un d'altruiste. Ça me convainc bien, altruiste, hein. Et modeste, oui, surtout modeste. Mais bon, là, c'est mon côté altruiste qui va ressortir. Donc, comme je suis quelqu'un d'altruiste, je vais vous aider à passer au mieux les fêtes de fin d'année, et surtout à éviter la gueule de bois, surtout après tout ce qu'on vient de boire. Et là, je ne parle pas de la gueule de bois de Macron qui tentait de ne pas récupérer politiquement une possible victoire de la France au Mondial de foot, ni de la gueule de bois de la biodiversité après sa COP ô combien médiatisée. La COP quoi ? Bon, non, je vous parle de la gueule de bois des lendemains de fête. Alors, ça pourra servir à certains autour de cette table et à la grande majorité de nos auditeurs qui s'étaient plongés dans l'alcool depuis qu'ils n'entendaient plus mes fameuses chroniques. Ils avaient dû se rabattre sur celle de Ludo à la place.
Et oui.
Bon, après, il faut avouer que c'est bien grâce à Ludo que je peux vous apporter des solutions à la gueule de bois, car il a utilisé ces solutions bien plus souvent qu'à son tour. Alors, il faut savoir que Ludo a des amis venus d'horizons lointains, dont un qui viendrait de Mongolie équatoriale supérieure. Du Nord Lozère, donc, qui lui a conseillé de concocter un breuvage à base de couilles et d'yeux de brebis trempés dans une mixture à base de bave d'escargot, de vinaigre macéré et quelques plantes aromatiques pour assaisonner. Un verre cul sec, et je peux vous dire qu'avec ça, pas de problème de gueule de bois. Et une force de cheval pour toute la journée. Voilà comment il fait pour tenir l'antenne, malgré 3 enfants à gérer à la maison, des stagiaires 3e juste bons à faire la météo, et encore, leurs prévisions ne sont pas toujours exactes. Ainsi, j'écoutais vendredi dernier la météo du 8h12 qui annonçait du beau temps pour tout le week-end, et bien patatras, un dimanche gris et maussade, juste bon à regarder la télé. C'est comme ça qu'ils font des records d'audience pour le foot. Mais ce n'est pas le sujet. Ainsi, sa petite mixture ne sert pas que pour la remise en forme, mais la base de la préparation peut aussi être réutilisée en soins pour les cheveux. C'est pour cela qu'il les a aussi soyeux. Bon, à la radio, c'est moins visuel. Mais si vous aviez une autre chance de pouvoir admirer sa crinière ondulée par le vent... Bon, pour les chroniqueuses de Un Livre sur le Zinc, leur devise, c'est « Il faut soigner le mal par le mal ». Lendemain de cuite, tu fais comme tonton Dédé, un petit coup de gnôle et ça repart. Ils ont dû les recruter dans l'ancienne émission de l'Instant Sport, c'est pas possible autrement.
Ça, c'est vrai.
Cyril, avant de partir, proposait aussi un autre remède venant de Laponie à base de plantes, comme une infusion. Mais ça ne sent pas assez mauvais, il n'y a pas assez d'alcool dans la recette, ça ne doit pas fonctionner.
Donc voilà mon petit cadeau pour que vous puissiez passer les fêtes au mieux. Je pense donc que j'ai bien mérité de faire ma petite liste au Père Noël. Et comme je suis sûr qu'il nous écoute à cette heure-ci, voilà, cher Papa Noël, j'espère que tu vas bien. J'ai été très sage cette année, Père Noël. Je ne me suis pas moqué de mes collègues de la radio. En même temps, je les ai pas vus souvent. Voici donc les cadeaux qui me feraient le plus plaisir. J'aimerais une arête de poisson qui puisse se coincer dans la gorge de Poutine, tu sais, l'ours russe, et qu'il meure. Une étoile pour le petit Kilian. Et enfin, la paix sur la terre et la protection de la nature, dans l'ordre que tu veux. Ou une grosse boîte de chocolat secret de cacao. C'est au choix. Disons le plus facile pour toi. Allez, je te laisse. Tu as du boulot.
Voilà une belle liste pour Noël. Merci, Eric.
Et
pour
et ce... tu as raison pour les stagiaires de 3e. Hein. On a beau ne pas les rémunérer, ils ne font pas bien leur boulot.
Tu nous écoutes pas, j'espère, Pablo. Pour se remettre d'une gueule de bois, quoi de mieux aussi qu'un peu de fromage, vous en pensez quoi?
Tiens donc, mais j'y penserai, Clara.
Bah oui, c'est avéré, vraiment, c'est super comme remède. Ouais, ouais.
D'accord.
Et donc, c'est au sourire de la crémière amande que je me suis rendue, aux côtés de Sylvie Benoît. On écoute. Merci. Alors, tout d'abord, Sylvie, qu'est-ce qu'on peut acheter pour Noël dans votre fromagerie?
Alors, on a les petits fromages de fête, le brie truffé et tout ce qui est petit fromage avec des truffes qui ont un large succès. Bon, on reste beaucoup sur nos produits locaux qui sont vraiment des produits de qualité. Il y a nos petits pélardons, il y a quelques tomes de brebis, le brie truffé bien agréable, surtout quand on a quelque chose de bon à boire, le roquefort bien sûr, et voilà, mais il y en a tellement, nos tomes de vache aussi de margeride, enfin, oui, il y a tellement de un beau plateau à faire.
Bon, et avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Le fromage, c'est pas forcément que pour le dessert, si?
Ah, alors, beaucoup de gens, en fait, ne peuvent pas se retenir. Et bien souvent, le repas de Noël, comme on a bien des fois mangé à la veillée de Noël, bon, c'est tout simplement picote dans le plateau de fromage. De plus en plus, je pense que c'est avec le confinement, on fait de la raclette aussi. Ça, c'est de plus en plus le repas de Noël. Je pense que c'est convivial. Je pense que jusque-là, la maîtresse de maison s'embêtait. Bon, on a un peu moins envie de s'embêter. Et puis tout le monde est là autour de la table. Voilà, c'est assez amusant. Mais après, le petit chèvre sur la petite tartine est toujours d'actualité sur une jolie salade. Et puis voilà.
Et avant qu'on passe au dessert, est-ce qu'il y a peut-être un fromage qui ferait bien la transition avec le chocolat, par exemple?
Alors, j'ai une amie qui avait fait des petits morceaux de faume d'Ambert enrobés de chocolat. Et c'était pas mal. Alors, je pense que voilà, il faut pas en manger trop non plus, hein, parce que le foie nous remercie pas. Mais oui. Et puis on peut le manger avec un petit croquant de chocolat et puis un petit croquant de fromage aussi.
C'est là. On remercie Sylvie Benoît de la fromagerie au sourire de la crémière amande. Bon allez, on passe à la bûche maintenant, direction la pâtisserie Majorelle, amande toujours. Ici, ça fait 4 générations que la maison confectionne pour Noël son inaltérable bûche pâtissière. On écoute Bruno Majorelle.
Bonjour, Bruno Majorelle, pâtissier amande. Voilà, et cette année, pour cette fin d'année, on fait comme d'habitude notre bûche pâtissière roulée avec un biscuit et une crème pâtissière au café et dessus une mousseline pralinée. On reste dans la tradition depuis des décennies, voilà, en étant la 4e génération de pâtissiers à faire cette bûche. Maintenant, on fait des bûches plus petites qu'à une époque, mais souvent c'est 7-8 personnes, c'est la bûche qui se vend le plus, quoi. C'est un biscuit traditionnel, donc du beurre, du sucre, de la farine, des œufs, et après la crème pâtissière avec du lait, des œufs, du sucre et un arôme café qu'on sélectionne pour avoir le goût désiré. Ça se fait en plusieurs étapes parce qu'on travaille à la chaîne, on est une équipe et donc du coup chacun a son rôle et du coup on ne peut pas compter le temps pour un produit parce que c'est on va travailler un travail d'équipe quand même. Alors c'est vrai que les périodes où on va faire le biscuit, préparer nos bases et puis après eh bien, quand c'est le moment eh bien, on roule et on finit le dernier moment quoi. Ah, le prix, je ne pourrais pas vous dire, hein, parce que moi, je ne m'occupe pas du tout de ce rayon. Mais après, les bûches, c'est début décembre jusqu'à fin décembre, en général. Après, c'est la galette qui prend le relais. Et on reste toujours dans la tradition familiale. Et puis, c'est une galette que, en général, qui est appréciée. Donc, du coup, c'est vrai que ça prend vite le relais sur la bûche.
Merci à Bruno Majorel, pâtissier Amande. Bon, avant de nous empiffrer un dernier coup avec du chocolat, place à la chronique la plus nulle de l'année. C'est cadeau, c'est Ludo.
Ah ben, merci Clara pour ce lancement. Moi qui ai suivi à la lettre tes directives pour écrire cette chronique. Pour cette dernière émission et chronique de l'année, j'aimerais finir en douceur et en beauté pour ces fêtes de Noël et vous parler de Wikipédia et de la guerre en Ukraine. Alors, sous le titre de Putin's War, alors je traduis pour Clara, la guerre de Poutine, le New York Times propose ces derniers jours des exemples à propos des racines du marasme russe en Ukraine. Relayé par le site Cori, on pouvait apprendre que des soldats russes partaient en guerre avec des documents Wikipédia sur le maniement des armes. Alors, il y a le corps de ce soldat de 54 ans, Ruslan, dont le corps a été retrouvé par les forces ukrainiennes. Sur lui, l'homme portait notamment des documents issus de Wikipédia et supposé lui donner quelques indices sur la manière dont il devait se servir de son fusil à lunettes. Voici à quoi s'est résumé l'entraînement d'un homme transformé en chair à canon par sa hiérarchie. Des documents Wikipédia pour manier les armes, c'est peut-être ce qui est arrivé à cet homme de 88 ans ce week-end, Clara ?
Je ne vois pas de quoi
tu parles. Je sais que tu souhaitais que je parle de cette histoire. Toi qui ce matin m'as dit « Voilà une information que j'aimerais avoir dans mon émission ». J'ai répondu « Clara, tu es sûre ? C'est l'heure de passer à table. Tu proposes une émission sur le repas de fête. » À quoi tu m'as dit « S'il te plaît Ludo, évoque l'histoire du papy, le papy, le papy ». Donc vu que c'est ton émission, j'obéis à ta lance-requête. L'hôpital de Saint-Eumus à Toulon a été en partie évacué ce week-end après qu'un homme de 88 ans s'est présenté avec un obus de la Première Guerre mondiale coincé dans un endroit où habituellement on met plutôt des suppositoires que des obus. Vous me direz, un obus, finalement, c'est un suppositoire en plus grand. Je suis donc allé voir sur Wikipédia s'il n'y avait pas quelques imprécisions sur le maniement des obus. Et là, un élément aurait dû attirer l'attention de notre papy. Un obus est un projectile creux de forme cylindrique terminé par un cône rempli de matière explosive. Une matière explosive peut être dangereuse, Clara. Non, non, sa place n'est pas n'importe où, à moins de vouloir faire de la place avant les repas de fête. Voilà ce que c'est de se renseigner sur Wikipédia et de ne pas lire les phrases jusqu'au bout d'obus. Bref, je souhaitais pour cette dernière chronique vous parler ici d'un obus qui ne terminera certainement pas dans les annales de l'histoire.
Quelle inversion des rôles, dis donc, je tiens à le dire. Je sais pas si je te remercie, Ludo. Bon, on a quasi tout fait, il ne reste plus qu'un dernier incontournable, c'est le chocolat. Direction donc cette fois Châteauneuf de Randon, où la chocolatière Sylvie Fauché s'est installée tout récemment. Chocolatière qu'on connaît avec son magasin secret de cacao. Donc elle aussi c'est du 100% Lozère et on l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Sylvie Fauché et je tiens la chocolaterie secret de cacao à Langogne et Châteauneuf.
Ça fait depuis combien de temps que vous avez monté votre entreprise ?
Alors, ça fait une dizaine d'années, puisque j'ai créé la chocolaterie à Langogne en 2012.
Et vous avez toujours été chocolatière ou pas ?
Non, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé à faire des études d'hôtellerie-restauration au lycée Sacré-Cœur à Saint-Chély. J'ai eu un parcours dans l'hôtellerie-restauration plutôt en cuisine, chez des grands cuisiniers. J'ai eu la chance de travailler chez des grands cuisiniers. Et puis bon, j'ai eu une autre chance, c'est de découvrir le monde du chocolat et j'y suis restée dedans. Ça, c'était en 2000. Voilà.
Et comment on tombe dans le chocolat alors, mis à part le goûter ?
Parce qu'on l'aime. Non, parce qu'en fait, je suis tombée dans le chocolat vite fait. J'étais chez Marcon, chez Régis Marcon à Saint-Mauny-le-Froid, et je voyais mon chef pâtissier qui fabriquait du chocolat et moi j'avais jamais le droit de toucher. Je voyais qu'il l'étalait sur le marbre, il l'enlevait, il le réchauffait. C'était très très mystérieux pour moi, mais j'avais pas le droit de toucher. Il avait pas trop le temps de me montrer et c'est resté un peu une sorte de frustration pour moi. Et donc du coup quand j'ai eu l'occasion d'aller travailler chez un chocolatier, je l'ai pris totalement et là j'ai découvert un milieu qui m'a fascinée en fait. Voilà.
Et du coup, là, votre chocolaterie, vous avez combien de gammes? Je ne sais pas si on peut parler en termes de gammes en chocolat. Combien vous proposez de différentes sortes de chocolat?
Je pense que je dois en avoir dans les 80, sous toutes les formes, en perles, en carré, en rectangle, en voilà. Il y en a un petit peu, et puis il y en a pour tous les goûts. Parce que je fais du chocolat pour faire plaisir à mes clients et je fais du chocolat au noir, du chocolat au lait, voilà. J'essaie de leur faire plaisir, voilà.
Donc du coup, vous avez deux points de vente, hein, c'est ça, donc Langogne, Châteauneuf, et après vous vendez aussi ailleurs, dans d'autres points un peu réparpillés sur tout le département?
Alors on a Langogne, parce que c'est le magasin où j'ai ouvert il y a 10 ans, 2012, et là on vient d'ouvrir un magasin sur Châteauneuf, en fait sur la RN88. J'ai fait ce magasin parce que j'ai construit un atelier de fabrication, c'est tout neuf, cette construction elle est toute neuve, pour avoir un atelier beaucoup plus agréable à travailler, parce que j'étais dans une petite maison à Langogne sur plusieurs étages et ça devenait très compliqué à gérer. Donc du coup, en faisant une nouvelle construction, j'y ai fait un magasin aussi à l'intérieur. Voilà.
Okay. Et vous êtes combien à travailler dans cette chocolaterie?
Là, on est un peu plus pour Noël actuellement. Sinon, en règle générale, on est trois sur Châteauneuf et une sur Langogne.
Ok. Et est-ce que, parce que du coup, notre émission, nous, ça va porter principalement sur les repas de fête. Est-ce que vous faites des spécialités pour les repas, les fêtes de fin d'année?
Alors, bon, on propose des bûches. Il y a des bûches qu'on appelle pâtissières. C'est des bûches qu'on conserve au réfrigérateur et des bûches glacées. Alors, en bûches glacées, on a l'omelette norvégienne. J'aime bien faire l'omelette norvégienne parce que j'ai un super souvenir de l'omelette norvégienne de la brasserie Georges. Quand je travaillais à Lyon, c'était fabuleux. C'était un grand moment, le flambage. Et puis, la deuxième glacée, c'est une classique. Ça reste classique. C'est une vanille framboise, qu'on aime bien en règle générale. Et en pâtissière, je fais une chocolat, évidemment, hein, c'est un peu ma spécialité. Et une autre, c'est une pralinée chocolat au lait. Voilà.
Et il y a des panettones, je crois, aussi?
Alors, c'est ce qu'on fait à la fin de l'année. On fait des panettones, qui est une tradition italienne, et des stollen, qui est une spécialité aussi plutôt allemande et alsacienne. En fait, c'est un peu partagé. Hein. C'est une brioche avec des pruneaux, un tout petit peu de pruneaux, pas beaucoup, mais beaucoup d'abricots, raisins moelleux. Et au milieu, il y a de la pâte d'amande. Voilà.
Votre matière première, vous la trouvez où? Comment on trouve en fait le cacao? Comment vous faites vos recherches?
Et en fait, ça vient de l'expérience, hein, et puis de la curiosité. J'utilise des chocolats qui me plaisent, en fait. Et ce sont des personnes qui font la sélection pour moi. Et puis moi, je prends après ce qui me plaît, en fait. Voilà.
Okay. Du coup, je propose qu'on passe un peu à l'atelier, ça va faire un peu les différentes étapes pour fabriquer du chocolat.
Oui, oui, oui.
Je vous suis là-bas. Alors, c'est quoi ce bruit qu'on entend là?
Là, c'est le bruit de l'enrobeuse, en fait. On est sur la dernière étape de fabrication du chocolat. L'enrobeuse, c'est une espèce de tapis, donc c'est un tapis roulant, qui roule en permanence, avec d'abord un rideau de chocolat. Donc le rideau enrobe les chocolats. Ensuite, on appelle ça une soufflerie, une espèce de soufflerie légère qui va venir régulariser la couche de chocolat autour de l'intérieur, en fait. Et ensuite, il y a le tapotage. Ça régule le chocolat autour. Ensuite, le chocolat vient de se déposer sur une feuille pour sortir donc de l'enrobage. Et ensuite, on décore le chocolat. Voilà. Ensuite, on le passe dans un endroit climatisé. On le laisse reposer une dizaine d'heures, qui se cristallise, en fait. C'est pour que le chocolat donc durcisse entièrement et qu'il puisse être disponible pour le magasin, les commandes, voilà.
Ok. Et j'imagine que vous faites tous les différents chocolats sur cette même machine.
Alors, on a deux machines. Il y en a une qui est au chocolat noir, à l'enrobage noir, et l'autre qui fait du chocolat au lait.
J'allais vous demander pour les nettoyer, ça ne devait pas être facile. Du coup, vous avez deux machines selon les chocolats, en fait.
Alors, en fait, on les nettoie, comme vous venez de voir. On les décape avec un sèche-cheveux, en fait, parce que le sèche-cheveux diffuse, en fait, une chaleur douce. Donc, ça ne brûle pas, le chocolat. Et quand on a fini, en fait, on filme la machine. On la filme parce qu'en fait on met pas d'eau sur du chocolat. Le plus gros ennemi du chocolat, c'est l'eau en fait. Donc jamais, il y a jamais d'eau en fait. On nettoie, on essuie.
Et ça fait quoi l'eau sur le chocolat ?
Ça l'abîme.
Ah oui.
Ça l'abîme, ça l'altère, ça fait des grosses taches et ça enlève la conservation. Ça abîme énormément l'humidité aussi. Après ça fait des traces blanchâtres, voilà. Le chocolat, c'est une matière qui est vivante en fait et qui ne réagit pas tout le temps de la même manière suivant la température, suivant beaucoup de choses et, voilà, et son origine même. Des fois, il y a des chocolats qu'on utilise à différentes températures. Il y en a un qui va bien réagir à 29,5 degrés et l'autre qui ne va pas du tout s'y plaire. Donc, il faudra peut-être le travailler à 30,2. Voilà.
Et du coup, là, ceux-là, par exemple, c'est des chocolats fourrés. Donc, vous avez dit à quoi déjà ?
Alors là, c'est un intérieur de chocolat. Là, c'est un amande feuilletée. C'est un praliné amande feuilletée. Voilà.
Et donc ça, vous le travaillez avant ? Ça se fait ici aussi ? Voilà. Vous avez une autre salle ?
Non, non, ça se fait juste à côté, en fabrication. Donc on a une machine, un gros robot coupe qui fait le sous-vide. Donc c'est à partir de ce robot coupe qu'on fabrique nos intérieurs. Ensuite, on coule cet intérieur sur des grandes plaques. Et on attend que ça durcisse. Ensuite, on découpe avec une guitare. Ça, c'est du matériel professionnel. Ça s'appelle une guitare. Le chocolatier a une guitare aussi, mais elle ne fait pas de musique. Elle découpe le chocolat. Voilà. Et quand ces chocolats sont découpés, donc on a des carrés, des rectangles. Voilà, ils sont prêts pour l'enrobage. Alors, ça peut durer quelques jours. Hein. Une fabrication de chocolat, elle ne se fait pas en une journée, en fait. Elle se fait sur plusieurs jours. D'où le besoin d'avoir une très très bonne organisation pour pas revenir, pour bien gérer son temps.
Et donc là, après, prochaine étape, on voit qu'à côté, il y a des petites mains qui mettent en boîte, hein, c'est ça ?
Voilà.
Oui. Peut-être aller les voir ?
Oui, si vous voulez. Oui. Là, en fait, ils préparent les boîtes pour justement garnir après avec les chocolats. Voilà. Okay. Et les chocolats, vite fait, si vous voulez, on va aller les voir. Allez. Hop, on repasse par le magasin. Bonjour, monsieur.
Ah oui,
voilà.
C'est là où ils sont conservés, en fait.
Voilà. Donc, en fait, c'est un autre magasin. Voilà, c'est notre lieu de préparation de commandes. Et donc, à partir de l'enrobage, après de la cristallisation, on vient réapprovisionner notre salle de préparation de commandes, le magasin de Châteauneuf et le magasin de Langogne. Alors, nous, c'est maintenant qu'on fabrique. On ne les fabrique pas quelques mois à l'avance. C'est des chocolats qui sont fabriqués ici, en Lozère. Fabriqués en Lozère, je trouve que c'est superbe. Par nos mains. Donc, moi, je trouve que c'est bien. C'est maintenant. Alors, c'est vrai que des fois, on a des petits soucis parce que, il y a des fois, on ne suit pas parce que d'un coup, il faut tellement donner. Donc, il y a des moments, je dis, sous réserve qu'il y ait certaines sortes de chocolats. En règle générale, on essaye de les avoir tous, tout le temps, mais des fois, c'est pas évident.
Ah, c'est en fonction de vos capacités, en fait.
Voilà.
Et du coup, là, en ce moment, c'est la période, en fait,
c'est
où
le rush. Oui, exactement. Là, c'est maintenant. Là, la semaine prochaine, ça va être. Il faudra tout donner. Alors déjà, on a tout donné. Maintenant, il faut encore donner encore plus. Mais bon, voilà, il n'y a pas de... C'est un plaisir, quoi. C'est super. Moi, je me régale. Voilà.
Et dernière petite question. Là, je vois que les chocolats, ils sont customisés aussi, et chacun. Comment ça se passe, les petits dessins là-dessus ?
Alors, il y en a quelques-uns qui sont décorés avec des poudres scintillantes alimentaires évidemment, et d'autres qui sont imprimées. Enfin, on y dépose à la sortie de l'enrobage une feuille imprimée en beurre de cacao. Voilà. Alors moi, je suis très adepte de cette méthode parce que je trouve que ça leur donne un côté comment dire, un côté gai, un côté coloré, et à quelque part, ils ont tous une signature. J'en ai même qui sont comment dire, qui sont là, j'en ai plus évidemment, bien sûr, qui sont à l'effigie de nos, de notre, j'ai envie de dire, de notre patrimoine lausérienne. Moi, je suis donc lausérienne de naissance, langonnaise, je suis née à Langogne. Et bon, je suis revenue après tout un parcours d'une vingtaine d'années m'installer en Lozère.
Ça, vous vouliez absolument revenir en Lozère? C'était important pour vous?
En fait, pour être franche, non, pas du tout. Je pensais que ma vie, elle était à Lyon parce que j'avais une très belle place dans une très, très grande maison de chocolat qui s'appelle Bernachon. Et je suis restée 10 ans chez eux. J'ai eu un parcours incroyable. Et voilà, ça a été dur de les quitter, mais j'étais aussi très très heureuse de revenir parce que j'étais partagée entre un peu de peur et aussi l'assurance de savoir que je faisais mon possible dans mon métier et que j'essayais toujours de faire des bonnes et des belles choses. Donc voilà, c'était une aventure. J'ai essayé l'aventure, j'ai pris des risques et pour l'instant, je suis très contente. Voilà. Et du coup, je suis, étant lausérienne dans l'âme, au plus profond de moi, je dédie certains chocolats au monument lausérien. Alors, je me suis installée à Châteauneuf, donc j'ai mis en lumière sur un de mes chocolats la Tour des Anglais, c'est un monument à Châteauneuf. Le blason de Châteauneuf, parce que j'avais le blason de Langogne. Oui. Ensuite, la bête du Gévaudan, qui est sur une ganache miel. Le chemin Stevenson, qui est sur une ganache verveine.
Voilà, j'allais vous demander, j'imagine que chacun a son petit goût spécial. Alors,
voilà, parce que chaque histoire... Là, pourquoi la verveine avec le chemin Stevenson? Parce que la verveine, du Velay. Et le chemin Stevenson, il commence en Haute-Loire. La ganache miel... avec la bête. Alors, il y a la férocité de la bête du Gévaudan avec la douceur du miel. Alors, j'utilise un miel de bruyère, de local, évidemment, avec beaucoup de caractère. Qu'est-ce qu'il y a encore? Gargantua, une figure de Langogne, sur une ganache marron. Un ganache marron, c'est gourmand, c'est Gargantua. Donc, et le blason de Langogne, si vous voulez, il est là. Vous voyez? Il y a le blason de Langogne et le blason de Châteauneuf. Pour moi, c'était très important de les mettre en lumière. Il y avait le blason de Langogne, il fallait que je fasse le blason de Châteauneuf. Alors, le blason de Langogne, c'est une pralinée noisette. Et le blason de Châteauneuf, c'est un, on appelle ça un bicouche. C'est une pralinée feuilletée. Et au-dessus, c'est une ganache chocolat noir. Voilà, il y a deux textures, deux caractères différents. La Tour des Anglais, c'est une ganache au thé. Les Anglais, le thé, enfin voilà, c'est très simple, hein, mais je trouve que ça donne un petit clin d'œil, une autre fantaisie. Et à Châteauneuf, j'ai fait aussi le du Guesclin. Donc j'ai pris la statue du Guesclin sur la plage de Châteauneuf. Donc on l'a mis donc sur une feuille en beurre de cacao. On le colle sur le bonbon. Donc il y a la statue de du Guesclin et la statue de du Guesclin, elle est sur un chocolat praliné amande noisette avec un crumble au beurre salé. Pourquoi un crumble au beurre salé? Parce que pour mettre en lumière les origines de du Guesclin qui sont bretonnes. Voilà.
Bon, on apprenait des choses, hein, parce que moi je savais pas tout ça. Et est-ce que le chocolat peut aller avec tout type d'ingrédients où il y a des mélanges qu'on peut pas du tout, qui sont à proscrire, quoi?
Oh, je pense qu'il y a des choses. Je pense qu'il y a certaines limites. Alors, j'ai appris mon métier dans une entreprise où il y avait beaucoup beaucoup d'originalité. Et j'ai continué dans une maison où il y avait beaucoup de classicisme. Et j'ai conservé un peu ce classisme parce que je pense qu'il y a quand même des limites. Je suis restée plutôt classique. Donc celui qui va être un peu original chez moi, ça va être le miel violette par exemple. Et moi, j'aime pas trop faire de mélange. J'aime bien que ça soit, brut. Ça va être du praliné noisette avec du café. Ça va être la ganache vanille. ça va être la myrtille, le citron, je vais pas mettre autre chose. J'aime bien marier le chocolat, l'équilibre du chocolat dans ma recette avec ce que j'y amène, le citron par exemple. J'aime bien mélanger le praliné avec des oranges confites par exemple. J'ai plein d'idées, on en a des dizaines tous les jours. Il y en a qui se concrétisent, d'autres pas, mais voilà, moi ce qui est important c'est de faire plaisir à mes clients, quoi. Et je me fais plaisir un peu à moi aussi.
Bien sûr, évidemment. Et est-ce que peut-être, comme là on va parler nous des repas de fête de fin d'année, est-ce que le chocolat pourrait aller potentiellement avec un plat salé?
Pourquoi pas? Mais c'est plutôt, je pense que moi je le proposerais plutôt en apéritif.
En apéritif.
Sur une ganache noire classique qui relève les origines, les caractéristiques de certaines origines de chocolat qui ont du caractère, avec un cocktail whisky ou même après le repas avec un petit cognac. Je trouve que le cognac se marie très bien avec le chocolat, le whisky. J'ai décliné certains chocolats avec beaucoup d'alcool. Pourtant, je suis pas quelqu'un
comment
qui
ça, beaucoup d'alcool.
On a fait une découverte sur un rhum banane flambée par exemple. Je trouve que c'est subtil, c'est super agréable pour ceux qui aiment la banane. Tout le monde n'aime pas la banane, mais je trouve que ça se marie très bien. On a mis en lumière la verveine du Velay. Bien sûr, on prend la verveine verte, c'est celle qui a le plus de caractère à mon avis. Un bon cognac, un bon armagnac, ouais, tout ça, tous ces alcools, je les ai mis en lumière dans des chocolats en fait, voilà, en forme de perles, qui sont bien. Après, il faudrait le Grand Marnier aussi. Je fais une truffe que j'appelle truffine. C'est une truffe à base de chocolat blanc dans une coque au chocolat noir. Alors dans chaque perle, on y met un petit morceau d'orange confite pour rappeler le Grand Marnier. Et ensuite, on l'enrobe dans du chocolat noir, on le roule dans le sucre glace. Ce sont des chocolats que je fais pour Noël, parce que je trouve que c'est festif. Et en plus, je l'attends avec impatience, cette perle Grand Marnier. Donc ça reste un produit classique. Sous le Grand Marnier, c'est classique, mais je trouve que c'est fabuleux.
Et pour parler des choses qui fâchent peut-être un peu, les prix, ça va de quoi à quoi? Parce que c'est du chocolat de très bonne qualité, donc j'imagine qu'il faut y mettre un peu le prix aussi.
Et oui, alors nous, on vend notre chocolat à 9,80€ les 100 grammes. Donc voilà, en règle générale. Et effectivement, le prix peut paraître cher, mais... On s'imagine pas tout le travail qu'il y a en amont. On s'imagine pas que on commande de la matière première qui est de première qualité. On choisit, comme je vous disais tout à l'heure, je choisis certaines origines. Et c'est vrai que j'avais un patron qui disait on fait pas du très bon avec du bon. Il faut du très bon pour faire du très bon. Donc voilà, il y a pas de secret en fait. Voilà.
Merci à Sylvie Fauchet de la chocolaterie Secret de Cacao qu'on trouve donc maintenant à Châteauneuf de Randon, mais son magasin à Langogne est toujours ouvert aussi. Merci Ludo.
Et merci à toi, on remercie nos chroniqueurs qui ont dû partir pour retourner au travail ou à des repas de famille.
Exactement, et je remercie aussi donc Sylvie Benoît de la fromagerie de Mende, Guy Saleil de l'association des Sarmentelles, Bruno Majorel, ainsi que Martin et Adrien de la brasserie de Rocle. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes. Et puis, comme d'habitude, on dit quoi, l'année prochaine, c'est ça?
Allez, en 2023.